J'avais toujours travaillé dans la musique. Et la réalité de ces métiers-là, tels que je les ai découverts, ne m'ont pas satisfait. Je me suis retrouvé sur le marché du travail à 30 ans, en ayant plus ou moins atteint mon objectif, un poste prestigieux qui est celui de directeur artistique, mais qui ne me satisfaisait pas. Je savais plus où aller, j'étais dans l'errance. J'étais largué, je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre des 30-40 prochaines années? Où vais-je réussir à m'épanouir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est là que je me suis fait violence et que je me suis dit, il faut que je finisse en fanfare, que j'aille au bout de mon idée de ce que doit être la musique et le travail dans la musique. Et c'est pour ça que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis lancé dans Born Bad et j'ai décidé de constituer mon propre label pour ne pas avoir de frustration et ne pas avoir d'amertume. Je me projette toujours à la place de ces gens qui ont eu pendant 30-40 ans une vie de con, un boulot de con, une femme pourrie. Qu'est-ce qu'ils vont se dire là, à l'aube de la... sur leur lit de mort. Putain, quand ils vont faire le bilan. Putain, ça c'est l'angoisse, c'est mon angoisse suprême, c'est d'avoir des regrets et des remords, de ne pas avoir le courage de faire des choses. La peur d'être resté prisonnier toute ma vie de ma peur. C'est ça ce qui tue notre société, c'est la peur. De toute façon, on est conditionné par ça. La peur du chômage, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer tout le temps.
C'est ça l'amour. Oui, c'est ça, maintenant je sais, c'est ça l'amour. On m'avait dit que c'était ça, mais maintenant je suis venu, j'ai regardé et je suis sûr, c'est ça l'amour. C'est ça, j'ai trouvé. Au fond de mon verre, je regarde, oui, c'est ça l'amour. Maintenant c'est sûr, oui.
C'est ça l'amour.
En fait, moi j'avais fait des études de droit plutôt longues. Quand j'ai dû commencer à bosser, donc rentrer sur le marché du travail, je me suis rendu compte que j'avais pas compris en plus de 5 ans d'études. Je l'ai compris en quelques semaines. Je voulais pas de ça pour moi. Ça me plaisait pas. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est la musique. Donc j'ai été évidemment toqué à la porte des grandes enseignes, les majors, puisque c'était les seuls à pourvoir des postes dans cette industrie. Et je me suis retrouvé ainsi chez Labels, qui était une division de Virgin, à faire l'arpète. Hein. Je suis vraiment passé par la petite porte. Et puis, de fil en aiguille, on avait repéré que je m'entendais plutôt bien avec les artistes. En tout cas, je ne me laissais pas intimider. C'était l'époque du rap, tu vois. Donc, tu avais tous les gars qui déboulaient en bande. Ils ne savent pas aller seuls à un rendez-vous. Donc, il fallait qu'ils soient accompagnés de tous leurs copains. Quand De La Belle Édition a été racheté par EMI Édition, on m'a proposé d'être directeur artistique. Voilà. Bah là, c'est la découverte d'un métier que j'avais longuement espéré, qui répond pas du tout à mes attentes. Enfin voilà, c'est la crise. Donc il y a déjà la tentation pour ces très grosses structures de n'exploiter plus que leur fonds de catalogue, qui quoi qu'on fasse rapportera plus que la dernière signature. On se rend compte aussi que les desiderata financiers prennent largement le pas sur ceux artistiques. On est là clairement pour faire de l'oseille. Ça fait partie du cahier des charges. Je suis là pour faire gagner de l'argent à la société. Donc ça veut dire que tu fais un peu des signatures artistiques par défaut, en te projetant sur le mauvais goût présumé du public. En te disant, tiens, ces bons cons, ils devraient bien aimer cette grosse daube, on va leur en donner. Mais moi, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, du fait de mon tempérament, du fait de ma raison d'être. J'avais l'impression d'être un imposteur, un escroc. Et ça me rendait réellement malheureux. J'étais l'ombre de moi-même. Et j'avais tout le temps l'impression que ça allait se voir, que des gens allaient me dire « Arrête tes conneries, mec, t'es un gros naste, qu'est-ce que tu fais ?» Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que c'est énormément de questionnements et c'est la honte, quoi. Ça commence comme ça, Born Bad par un pot de départ chez EMI Édition. Et puis après, c'est un nouveau départ. Une forme de rédemption aussi, parce que j'ai besoin de me laver de toute cette amertume, de toute cette frustration, l'évacuer. Donc c'est une période plutôt de doute, mais aussi extrêmement faste, parce que l'envie, la détermination n'a jamais été aussi forte. Tout est à faire. Donc, je suis en guerre, quoi.
Je
serais incapable, moi, d'arriver à poil sur scène sans savoir jouer. Je suis impressionné par les gens qui n'ont pas ces états d'âme, qui arrivent, qui n'ont rien à foutre réellement du regard des gens, qui ont réussi à s'en affranchir. Ils jouent comme des patates, ils jouent comme des savates, et ils y vont. Cette capacité à s'en foutre de ce que les gens pensent, déjà, je pense que c'est ça la quintessence du rock'n'roll. Et en plus, réellement, c'est quelque chose qui m'impressionne, j'en suis incapable. Je serais tétanisé par la peur, tétanisé par le ridicule. C'est quelque chose dont j'aimerais me libérer, tu vois, ça. Quand c'est encore le stade ultime et supérieur du mec qui existe par lui-même. Et ça, c'est très impressionnant. Et c'est pour ça, avec le label, j'ai toujours été faire ces artistes un peu besogneux, un peu laborieux, qui viennent de nulle part et qui vont se révéler au fil des années. Et ça, c'est les groupes que je préfère. J'aime pas le talent chez les gens quand il est trop, trop présent, trop évident, trop là. Moi, la virtuosité en musique, ça m'ennuie. À ce moment-là, voilà, t'écoutes les suites de Bach et puis t'attends la mort. Et puis tu te retrouves à te parler que de Leonard Cohen et du Velvet Underground et puis de... Voilà, ces gens m'ennuient. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu bancal et branque, ce côté on sait pas bien où ça va, ces albums qui sont inégaux, avec des morceaux géniaux qui côtoient des bouses. Et voilà, c'est comme ça que j'aime la musique, c'est comme ça que je la conçois. Bancal, parfois approximative, mais avec cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de se jeter dans le vide. C'est ça ma perception du rock'n'roll, en fait, et ma conception.
Internet. Ça, c'est craignos. Internet, il est bien craignos. Avant un concert au Gibus, on a fait tocard. J'ai des smileys sur les mains. Pas cool la mort, youpi la vie. J'ai mes fesses. Putain de Paris. Là, j'ai un Lego. Là, c'était Star Wars. C'est l'Empire Galactique de Star Wars. Et le top du top. Ça va pas se sucer tout seul. Je sais pas. Chez Born Bad, on accorde une extrême importance à l'intégrité. On fait la musique avec le cœur.
Frustration, c'est des gens qui sont un peu plus âgés que moi, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, parce que voilà, c'est des Parisiens, c'est des gens que j'ai découverts sur le tard en venant de ma banlieue. À leur compteur, ils ont des années et des années de groupe, des dizaines de tournées, une discographie à faire pâlir Carlos Santana. Et pour moi, c'est une évidence de les signer. Au-delà de la couleur musicale, qui est assez inédite pour l'époque, c'est-à-dire que au début des années 2000, plus personne se revendiquait de cet héritage cold wave, post-punk un peu fier à bras. Le disque sort et il fonctionne tout de suite. Au fil des années, Frustration s'impose aussi comme un peu le triomphe de la musique amateuriste. Ils deviennent l'étendard d'une musique faite par des branques, faite par des branlots, sans aucune ambition que de faire ce qu'ils aiment. dans un pays où on ne parle que de professionnalisation, où la musique est un métier. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la musique par loisir en France. La musique est de fait un métier. Tu montes sur scène, tu dois avoir un contrat de travail, tu dois avoir un cachet d'intermittent. C'est un formidable pied de nez à tout ça, à tous ces connards, tous ces casse-couilles qui viennent te voir, qui ont fait deux morceaux et qui sont en train de déjà te parler de manager, d'éditeur, de tremplin pour leur carrière. Et ça, ça m'angoisse. Frustration, ouais, hein, l'antithèse de tout ça. Le chanteur à 50 ans révolu, a bossé pendant 28 ans chez un très gros loueur de matériel de chantier. Il est radical, il fait ça par envie, par besoin, et n'attend rien d'autre de la musique qu'il fait.
Je fais que ça en fait. Enfin, moi dans ma vie, c'est ça. Je restaure mes bagnoles quasiment moi-même. Je connais une ou deux cellières qui refait la... ou celliers qui font les intérieurs. Je connais un peintre qui bosse. Enfin, c'est que de l'amateurisme. En fait, c'est resté, mais c'est très très prétentieux de faire ça. Les gens qui se la pètent là. Je pense que les gens qui sont vraiment dans l'espèce d'amateurisme flamboyant, c'est ça. Je pense que c'est des gens qui le font discrètement en fait. Fait discrètement. Le label de Bamban, c'est discret. En fait, t'es au courant quoi, uniquement quand ça sort quasiment. JB, c'est. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Et ils sont... Ouais, ils sont quart. Parce qu'il est si désespéré que nous tous. Il fait son truc, là, parce qu'il s'emmerde. Moi, je fais de la musique parce que je me fais chier, la vie m'emmerde. J'avais pas une entrevue dans un scénic gris métallisé avec deux mômes. Et j'ai les boules de pas avoir deux mômes. J'ai pas les boules de pas avoir de scénic.
J'ai connu tous ces gens-là parce qu'on se retrouvait le week-end pour bricoler des bagnoles américaines. C'est une bande aussi qui m'a appris à ne pas avoir peur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, moi, je bricolais des petits Vespa chez moi, des Triumphs un peu avec des amis, des vieilles bécanes anglaises. Mais jamais je me serais senti capable d'aller acheter un paquebot, une bagnole américaine de 6 mètres de long à moitié en épave et puis me mettre à la refaire. Et eux, ils n'en avaient rien à foutre. Ils récupéraient les bagnoles, ils peignaient la caisse au rouleau, ils regonflaient les pneus, 3 litres d'essence et ils allaient faire les cons. Et j'ai découvert qu'avec ces gens, ce qui était important, c'était de faire des choses et justement de ne plus avoir peur. D'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas faire les choses et de te dire, voilà, toi-même, vas-y, fonce. T'as envie d'une caisse américaine ? Bah, achète-toi une caisse américaine. T'as envie de faire un groupe de rock ? Eh bah, fais un groupe de rock.
La différence entre un djembé et un oignon, vous savez ce que c'est la différence entre un djembé et un oignon ? C'est que quand un oignon, tu le fends en deux, bah tu pleures, et quand comme on le casse un djembé, personne pleure.
L'initiation, c'est déjà te rapprocher de gens qui te ressemblent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le filtre, ça va être les gens qui, comme toi, sont en rupture, qui, comme toi, sont différents. Et de paria, on se retrouve un peu entre nous et on devient les forces vives de quelque chose qui nous échappe totalement, quoi. Moi, en fait, on m'a toujours dit, parce que j'ai toujours gardé mes amis d'enfance, que plus jeune, j'étais un garçon plutôt étrange, un peu bizarre, sans doute un peu mystérieux, parce que voilà, j'étais dans un univers familial qui était pesant et lourd, empreint de violence, électrique, et sans doute que ça m'avait rendu taciturne. Je rasais les murs, j'étais le garçon avec qui personne ne veut jouer au foot, très peu entouré. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le rock'n'roll, voilà, à l'image du vilain petit canard qui devient un beau cygne, ça m'a donné une prestance et une assurance. D'un seul coup, je suis devenu la coqueluche du collège, puis la coqueluche du lycée. Voilà, j'étais séduisant, je plaisais, tout le monde voulait être mon ami, J'étais respecté et le rock'n'roll m'a permis ça, c'est-à-dire me donner confiance en moi. De prendre le parti d'aller explorer ces chemins de traverse m'a donné une aura que je n'avais pas et m'a permis de m'affirmer. Mais nous, on était une bande, c'est-à-dire que nous, on avait les vieux Vespa et on écumait la ville. Voilà, on tenait le pavé, on quadrillait la ville. Voilà, je vais pas dire qu'on faisait des tours de garde, mais c'était, il y avait cette idée de clan et de territoire.
Partout où je fais des pieds de nez. Quand je vois un chien, je lui donne des coups de pied.
Donc voilà, on traînait, on buvait des canettes. On cherchait la merde sans trop prendre de risques. Voilà, c'était une espèce de petite marginalité au rabais. C'était un jeu. On s'amusait à se faire peur, à se sentir vivant dans une ville de banlieue extrêmement ennuyeuse. Et voilà, quoi. On cessait de se griser comme on pouvait, à travers l'alcool, les cuites à rallonge, les petites bagarres de merde, les embrouilles à deux francs, les scooters bricolés, trafiqués qu'on conduisait sans permis. Et puis voilà, on avait l'impression d'être dangereux, d'être anti-système et de faire un gros fuck à la société.
Oh baby, let's twist again. Let's twist again. Donne-moi la main là. Yeah, tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur, et rythme le twist.
Moi je me souviens, voilà, dans les années 90, parce qu'on n'avait pas le bon badge, parce qu'on avait le badge du mauvais groupe, parce qu'on n'avait pas le bon blouson, tu risquais ta vie et tu pouvais te faire déglinguer pour ça. Ça a totalement disparu. On est d'accord que les jeunes n'ont plus ce même engagement par rapport à la musique. Et c'est plus un mode de vie en soi. Moi, la musique servait de prétexte à un mode de vie global qui était celui du folklore rock'n'roll et dans lequel je me suis épanoui et dans lequel je me suis réalisé avec cette culture de la bande de copains, cette culture de la fête, cette culture de la bagarre. Et j'ai adoré ça. Maintenant, voilà, j'ai juste pris un peu plus de recul. Alors qu'avant, voilà, j'aurais pu donner ma vie pour défendre bec et ongle des choses aussi bêtes qu'un badge et un blouson.
J'ai eu une médaille une fois, grâce à l'équipe.
Regarde, t'en as une là.
Ouais. Bah là, mais non, mais moi, c'est un énorme plaisir, quoi.
Il y en a sur Discog, genre un disque de violence conjugale avec la médaille bande batte dedans et tout.
Quoi ? Comment ils ont fait ?
Bah, ils ont dû faire des fausses ou je sais pas quoi.
Non, c'est peut-être des vrais, il y a peut-être un connard qui veut faire 5 euros.
Il est forcément ici, attention.
Pour Lutch aussi. C'est Lutch, ça.
C'est qui Lutch ?
C'est le guitariste chanteur de Magnetix.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Il a eu un petit accident d'immortalité et du coup, il est empêché. Il a eu un empêchement. Donc, ça, c'est sa médaille pour lui. Il faut le représenter parce que s'il y a bien une personnalité éminente de bande-bad et du rock en France, c'est quand même lui. Donc, et un mec qui pète des voitures, qui lui rentre dedans à 70 km/h, il faut quand même s'en rappeler. Quoi, ça se passe pas. Rock and around.
Les magnétiques, on les a toujours connus, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, qu'ils seront toujours là, c'est rassurant, c'est un phare. C'est-à-dire qu'ils célébraient leurs 20 ans de magnétiques, 20 ans de garage rock à fond les gamelles, sur la guerre. Donc voilà, cette espèce d'énergie primale. C'est-à-dire que sur scène, il y a peu de groupes qui sont aussi brutales. Là, il n'y a même plus d'alibi artistique, c'est-à-dire, voilà, il y a vaguement des compositions derrière le chaos de leur live. C'est une énergie primale qui fait écho, c'est ultime et absolu. C'est-à-dire qu'il y a même une énergie sexuelle et tribale dedans, ça réveille l'animal qui est en moi. C'est un défouloir, c'est jubilatoire, et c'est parfait. C'est les groupes que j'aime voir sur scène, c'est cette musique-là que j'aime voir sur scène. Des brutes, des animaux, ça fait du bien. Surtout sur un genre, le garage qui a été tellement récupéré, tellement galvaudé, qu'on en a oublié que c'était à ce point-là une énergie aussi primaire et primale, que c'était aussi bruyant et brouillon. C'est d'un groupe anecdotique qu'on se retrouve avec un groupe majeur qui va devenir le modèle pour toute une ville, à savoir Bordeaux. Il n'y a pas idée le nombre de groupes qui se revendiquent des Magnetics dans la jeune génération, dont JC Satan qui est aussi sur le label. Et c'est ça qui est formidable, c'est l'impact de ce groupe-là qui n'a à la base rien pour lui. Il joue comme des savates. Voilà, c'est ça qui est formidable. JC Satan, je les ai signés parce qu'évidemment, ils sont beaux à voir, c'est redoutable d'efficacité en live, c'est la guerre. On dirait une bande dessinée, l'espèce de famille Adams ou Simpson maléfique. Ils sont drôles. Je suis dans l'excès et j'aimerais, comme tous les gens qui sont dans l'excès, être une personne modérée. Et je perds très souvent le contrôle parce que je suis dans l'émotion, je suis dans l'enthousiasme, je prends tout à cœur, je suis à vif. Et donc, je m'approprie la moindre chose de façon irraisonnée, irrationnelle. C'est fatigant pour mon entourage, c'est fatigant pour moi, mais c'est ce qui me fait avancer aussi. C'est ma capacité encore à m'indigner. Continuer à être dans la lutte, ne jamais me vautrer dans la facilité, jamais me dire que je suis arrivé. C'est une force d'arriver encore à être en colère tout le temps au quotidien pour rien. De toujours vouloir lutter contre l'injustice, contre l'imposture, contre la médiocrité. Il y a tellement de gens résignés qui se disent bah, « c'est pas grave ». Alors moi, c'est inverse, c'est-à-dire que la moindre connerie va me mettre dans des états grotesques.
Ouais, mais tu sais, c'est comme dire à des gens qui vont bosser à l'usine, oui, ça va te casser les couilles, parce que c'est usant. Mais sauf que nous, c'est, le truc, c'est que c'est un des rares. C'est pas même un travail en soi, mais bon, ça pourrait être un travail en soi, si on considérait que le travail, c'était pas forcément un truc chiant, en fait, tu vois. Mec, c'est tellement gratifiant qu'être usé pour un truc gratifiant, c'est normal, quoi. Être fatigué pour un truc dément, c'est assez. À moins qu'on soit rentré dans un monde où tout le monde est tellement des flemmards qu'ils ont même pas envie de se bouger le cul pour être heureux. J'avais la chance d'avoir mon père, tu vois, qui était un mec un peu connu là-bas, c'était l'adjoint de sport et loisirs. En plus, du coup, il était plutôt cool, il s'occupait des associations. Et à côté, j'avais le truc un peu indé, j'étais pote avec les gitans, et les mecs, ils étaient cool. Hein. J'ai découvert le porno plutôt que ce que j'imaginais, des trucs comme ça. Quoi. Du coup, ouais, derrière Rolls, il y a un côté ville de Cassos, mais on grandit bien là-bas finalement, je trouve. On est bien formé, je crois. C'est pas mal. On peut pas devenir un énorme fils de pute. C'est en grandissant là-bas, si on en part, à un moment. Faut juste pas y rester, c'est tout. C'est une ville intéressante. Je suis revenu, genre, quand il y avait une fête foraine. Et tous les gens qui étaient au collège avec moi, j'avais l'impression qu'ils avaient 10 ans de plus que moi de gueule. Enfin, moi je me sentais comme un enfant, ils avaient tous une poussette à tirer, ils avaient leur permis, des trucs. Et ils sont toujours à l'aréole quoi. Et ça dépend après du choix de vie que t'as. T'as un choix de vie qui est un peu déjà particulier pour des gens qui ont voilà, pensé rester à l'aréole et faire leur vie là-bas, à la cool. Tu dis que tu vis avec à peine un SMIC, des fois ils comprennent pas quoi. Mais comment t'achètes ta caisse, j'ai pas le permis quoi, je sais pas, mais t'es gosse, mais j'en ai pas, tu vois, genre putain de mec, t'as 31 ans, ouais, c'est, je suis jeune quoi. C'est des mecs qui comprennent pas. Moi si je peux. T'imagines dire à des mecs là-bas, je suis musicien. Ils sont morts de rire quoi les gars. Moi ils se foutent de ma gueule quoi. Le gars, il y en a un qui a repris l'entreprise de son père, il y en a un qui a monté un truc d'échafaudage, il y en a un qui vend du bois. C'est que des trucs comme ça, quoi. Et ça marche. Eux, ils sont tranquilles, après, je sais pas, ça se trouve. C'est moi qui ai la chiasse tous les lendemains de concert, et eux, ils s'en sortent très bien avec leurs besoins primaires, hein, tu vois.
c'est mon environnement familial, mon environnement social qui ont développé en moi des complexes. Quand tu vis dans des banlieues bourgeoises, quand tu côtoies au quotidien des familles équilibrées, des gens normaux, des gens épanouis socialement, tu nourris une frustration. Parce que tu te rends bien compte que tu es différent. Et ces complexes, tu les alimentes. Et j'ai mis énormément de temps à avoir une bonne opinion de moi-même. Et ça a été long. Et elle est assez récente, d'ailleurs. Pendant très longtemps, je me suis vraiment pris pour une merde, quoi. Et même maintenant, en réalité, hein. J'ai pas une très très haute opinion de ce que je fais et de moi-même. Hein. J'ai pas l'impression que ce que je fais soit très important. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans l'anecdotique. Je me rappelle très bien de flashs de gens où je me promenais avec mes parents et au détour de rue, on tombait sur des mecs que je voyais arriver, que je trouvais magnifiques. Des espèces de rockers tout en cuir, en perfecto, des punks à crête. Et j'étais fasciné par la violence qui se dégageait de ces gens-là, cette espèce de marginalité comme ça affichée. Et puis après, ça a été toute cette mythologie autour du loser magnifique. Des mecs comme Brando, dont l'équipe est sauvage, sont des personnages sur lesquels je me suis construit. J'étais fasciné par ces personnages tout en contraste, qui savaient aussi bien être flamboyants que minables, à l'image de la vie. J'avais l'impression d'être comme ça, voilà, avec alternant d'une certaine confiance en moi, et puis d'un autre côté, me disant que j'étais la pire des merdes, ne sachant pas où j'allais, comme tous les jeunes qui se cherchent, tu vois, c'est très difficile de savoir où tu vas et de donner un sens à tout ce que tu fais, c'est pas évident, donc j'étais dans ce mode-là, en fait. Et c'est vrai que de découvrir les codes du rock, ces tribus, ça m'a donné un guide. D'ailleurs, j'ai adopté le dogme et j'ai suivi. Voilà, je me suis inscrit dans ce folklore. Ça m'a permis de me guider. Ça m'a permis de savoir où je voulais aller et savoir ce dont j'avais envie. Ça m'a permis déjà, d'ores et déjà, de trouver une certaine forme de place. Mais j'avais une vision extrêmement manichéenne des choses, c'est-à-dire sorti de mon sérail, point de salut. J'étais réellement obtus d'esprit, c'est-à-dire j'étais nourri de certitudes. J'étais persuadé de savoir quelle était la musique au monde. J'étais persuadé d'avoir les meilleurs copains au monde. J'étais persuadé, voilà. Un rapport assez bas du front à tout ça. C'est avec les années et ma curiosité que je me suis éveillé. Je suis un autodidacte, c'est-à-dire que je suis instruit, mais cette culture, je me la suis faite moi-même, au prix d'énormément d'efforts. C'est-à-dire que j'y ai travaillé, en achetant de la musique, en achetant des disques, en multipliant les expositions. Ça a été une gymnastique de tous les instants. Pour devenir de plus en plus érudit, cette soif de savoir, cette soif de combler, d'être à niveau de tous ces gens qui m'ont méprisé, de tous ces gens qui m'ont pris pour une merde. Et voilà, c'est une histoire de revanche. Et avec Band Bad, je suis dans la revanche, je suis dans la colère, je suis dans la revanche. C'est ce qui me nourrit. Et d'ailleurs, avec Band Bad, dans mon rapport aux gens, c'est toujours été manichéen. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire, c'est la croisade, c'est l'épopée.
Tu crois en Dieu ?
Non. Dans ma politique de signature, la dimension humaine est prépondérante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de sortir des disques, c'est l'épopée humaine. C'est le moment que nous allons vivre ensemble. C'est ça qui importe. Les personnalités qui constituent les groupes que je signe est tout aussi important, voire plus important que la musique qu'ils font. C'est pour ça que si tu fais de la musique géniale mais que t'es un gros connard, je ne sortirai jamais ton disque. Et à contrario, il y a énormément de disques sur le label que j'ai sortis, que je trouvais relativement faibles, mais qui m'importait de sortir parce que je me sentais totalement en phase avec les gens qui étaient derrière ces projets. Et c'est ça qui fait que j'arrive à tenir le cap, à continuer à bander, à ne pas douter, à être aussi déterminé. C'est ça, ce qui me nourrit, c'est l'épopée humaine, être avec des gens que j'admire. Il n'y a rien de plus important qu'admirer les gens dont je sors les disques.
J'ai failli mourir un peu plusieurs fois comme ça. Et donc c'était un peu genre, bah, ça c'est fait, j'aimerais bien faire ça en fait avant de mourir. Et donc j'aimerais bien faire une connerie comme ça. Et donc essayer de se présenter aux élections municipales pour voir ce que ça fait. Et donc j'ai vu ce que ça faisait moi, maintenant. Ouais. Quand tu te pointes à la préfecture en pyjama à 8h du matin pour demander en fait à l'accueil comme ça, genre, bonjour, je voudrais être maire. En fait le mec te fait genre, vous voulez quoi? Vous voulez vous dire que en fait vous voulez vous présenter aux élections municipales? Je fais, ah ouais. C'est exactement ça en fait, c'est bien le mot.
Ce qui est amusant, c'est que c'est quelqu'un qui a eu sa propre salle avec des amis qui étaient à Amiens. Cette salle qui s'appelait l'Accueil Froid, qui était un peu en périphérie de ville, n'était même pas un squat puisqu'il s'acquittait d'un loyer auprès du propriétaire. Donc en réalité, il n'emmerdait personne. Sauf que la municipalité en a décidé autrement et a fait fermer la salle. Donc Nicolas, à savoir usé, furieux et en colère, s'est dit, bah écoutez, puisqu'ils me cassent les couilles, moi aussi je vais aller marcher sur leur plate-bande et puis m'ingérer un peu dans leurs activités. Donc il s'est présenté aux élections municipales d'Amiens, je ne me rappelle plus en quelle année, et a créé un parti qui s'appelait le Parti Sensible, avec un programme vite fait torché au coin d'un comptoir de bar avec ses potes.
Bah, j'ai fait campagne comme tous les politiciens, non? En fait, j'ai fait des promesses. C'était que des promesses, hein.
Mais comment
comme tous les politiques. Bah, tu fais des promesses, bah, tu proposes des promesses.
Mais où t'as fait ça? Où t'as
à Amiens.
Bougé?
T'as oui, sur les marchés, sur. Enfin, je faisais campagne comme tout le monde, quoi.
Et qui a commencé à ennuyer réellement les politiques locaux. Donc, ils sont venus le voir en disant bon, maintenant, il faudrait être un peu sérieux et puis arrêtez votre cirque, quoi.
J'ai eu des rendez-vous en fait un peu sérieux comme ça avec le conseil général en pleine campagne municipale. Et ils m'ont retiré le RSA. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es au RSA, tu dois noter objectif à atteindre et tout ça. Enfin, je sais pas si tu vois les contrats d'insertion. Et donc, objectif à atteindre, pour moi, c'était genre, bah, être maire d'Amiens. Donc, j'ai mis être maire d'Amiens. Ils ont fait genre, putain, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Je suis, bah ouais, je me présente aux élections municipales, c'est ça mon boulot. C'est genre, je veux être maire d'Amiens, c'est ça mon taf, quoi. Enfin, j'essaye, quoi. Et c'est un mode d'insertion, quoi. Bah, tu vois, si c'est pas de l'insertion, là, je comprends pas. Et ils m'ont retiré le RSA pendant 5 mois, genre sans aucune raison.
Il a récolté, je crois, à peu près un peu plus de 10 000 voix, ce qui, à l'échelle d'une petite ville de province comme Amiens, est loin d'être anecdotique. Et puis surtout, il a acquis une popularité au niveau de la ville qui l'a rendu intouchable et ce qui lui a permis de réouvrir sa salle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit aux politiques, bon, bah voilà, on fait quoi maintenant? On continue? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit, bah ouais, là, c'est un petit peu lourd. Donc il a dit, on est d'accord, donc je vais rouvrir ma salle. Ce qu'il a fait, qui s'appelle l'Accueil Froid avec ses potes et qui continue à exploiter. Voilà.
En gros, moi, ce que je voulais, c'était pas voter, en fait. Dès le départ, j'ai jamais voté de ma vie. Et en gros, j'ai même pas voté pour moi, en fait, pour les élections. Dès que tu votes, eh ben, en fait, c'est pas pour changer ta vie, en fait, c'est pour changer la vie du gars. C'est pour lui donner un poste. En gros, tu lui files un travail. C'est genre, en fait, tu votes pour lui filer un travail, pour lui filer un boulot. J'ai un peu l'impression, en fait, d'être conseiller au Pôle emploi et, en fait, de lui filer un boulot, quoi. C'est un peu ça, en fait, maintenant. C'est pas, en fait, voter pour toi, c'est pour eux.
Évidemment qu'on est mis au banc de la norme. Évidemment qu'on est mis en marge de la société. Les gens détestent notre musique. T'as qu'à confronter les disques et les artistes que je sors au grand public. La plupart vont être horrifiés. La plupart ne peuvent pas supporter l'écoute de plus de 30 secondes d'un JC Saint-Ange ou d'un Frustration. C'est en sens, c'est ce que nous renvoie la société, qu'on est des gens des mauvaises graines. Mais moi, ça me va très bien de le revendiquer, que je suis une mauvaise graine. Ça me fait penser un peu comme chez les bikers, les motards, tu vois, ce 1%. quand on avait dit dans les médias que les motards étaient des gens très bien, mais qu'il n'y avait qu'un pour cent qui foutaient la merde. Et d'un seul coup, tous les clubs de bikers se sont retrouvés à aborder ce fameux 1%, les Hells Angels, les Nomades. Et ça a créé du lien entre tous ces gens, tous ces parias, qui se sont retrouvés derrière ces propos intransigeants de gens soi-disant bien pensants, mais qui sont intolérants, qui refusent la différence. C'est ça aussi le problème. C'est qui la mauvaise graine? C'est qui la normale? C'est qui le taré? C'est compliqué dans la société malade dans laquelle on vit de savoir qui est du bon côté du bâton.
Amoureux, c'est le petit milieu. Solo. Ma chérie, je n'en suis sans toi. Les jours sont aussi longs que les mois.
Le label, dès le début, j'ai assimilé et j'ai compris que je voulais le développer sur deux axes, c'est-à-dire les groupes actuels, produire des groupes actuels, en faire mon cœur de métier, et puis aussi revendiquer une certaine filiation avec des anonymes, des inconnus qui, par le passé, ont eux aussi essayé de proposer quelque chose de différent, ont eux aussi essayé de défendre une culture alternative, une contre-culture française, un underground. Et c'est pour ça que je vais me servir des rééditions. Et c'est pour ça qu'à travers ces rééditions, je ne vais avoir de cesse que d'essayer de réhabiliter tous ces gens, plus ou moins anonymes, qui le temps d'un 45 tours, deux 45 tours, ont essayé de proposer des choses alternatives et différentes. C'est une volonté de dire, avec Born Bad et les groupes actuels signés sur Born Bad, nous sommes les enfants, les petits-enfants de tous ces gens. Il y a une contre-culture en France. Il y a un underground en France. Ce n'est pas vrai qu'en France, nous sommes des nazes. Ce n'est pas vrai qu'en France, sorti de Serge Gainsbourg et Edith Piaf, il n'y a point de salut. Ce n'est pas vrai que le rock en France se résume à Noir Désir et Louise Attaque, qui ont été des traumatismes pour l'adolescent que j'étais lors de leur sortie. C'est faux. Et ça, c'est une démonstration par l'exemple et qui passe donc par ces rééditions. René, qui était punk à la fin, au milieu des années 80, qui m'a fait mon oreille. C'est lui qui squattait la platine familiale, l'écoutait, voilà, les premiers Rigelin, Lavilliers, on a oublié, comme les premiers Bernard Lavilliers étaient écoutés en banlieue et dans les cités. Et voilà, je pense que c'est lui qui m'a fait familiariser très clairement avec ses musiques alternatives et donner le goût, en tout cas, pour ce qui était différent musicalement. Et c'est fou l'empreinte que Lavilliers a laissée en moi. C'est dingue aussi comme je m'en souviens. De passer pour un beauf, encore maintenant. Je disais que je me complaisais à être bourrin, je me disais que je complaisais à être un peu bas du front, parce que ça m'aide à avancer. Mais en même temps, dans le regard des gens, j'ai toujours cette angoisse de passer pour un beauf, ça c'est évident. Je cheveux me font passer un cap parce qu'ils me font en tout point supérieur. C'est des gens qui sont de bonne famille, qui sont plus instruits, ils sont plus malins. Ils me surprennent et je me retrouve à la traîne, en fait. Donc intuitivement, je me rends bien compte, je suis fasciné par eux, par leur univers. Mais c'est des codes qui me sont étrangers et que je vais découvrir avec eux. Et c'est pour ça que cheveux est aussi important. C'est que je sors de ma zone confort, je sors de mon petit sérail à ce moment-là. Tu vois, de la bande de potes où on est tous entre nous très contents de ce que je fais et de ce qu'on fait. Là, je me mets réellement en danger, sans doute, pour la première fois en signant cheveux. Oui. Cheveux, ce qui est stimulant avec Cheveux, c'est qu'ils se remettent toujours en question. Pareil, c'est un groupe qui n'a pas peur. Donc, ils peuvent sortir de leur zone de confort tout le temps, sans appréhension. Ils sont tout terrain, d'une flexibilité hallucinante. T'as l'impression qu'ils vont tout le temps se vautrer, qu'ils vont tout le temps se casser la gueule, mais ils arrivent toujours à se raccrocher aux branches.
Je me souviens plus les paroles.
De quoi ?
Du premier morceau.
C'est quoi le premier morceau ?
Le premier morceau, ça va être « Like a deer in the headlights », les trucs pour que je me pousse dans le genre.
Ça va
merde, j'essaye de trouver sur YouTube le morceau pour retrouver les paroles, mais là, je ne les retrouve pas. Non, non, mais il faut juste se concentrer. Just before it's my time and I want to so. Ok, c'est bon, ça y est. Ok, voilà. Voilà. C'est bon, vous avez la fin de la séquence là, c'est bon.
Donc c'est un groupe qui est aussi bien capable de jouer dans les squats les plus radicaux que de jouer au MoMA, qui est capable de faire un concert complètement raté et le lendemain jouer avec 80 musiciens dans un opéra au Théâtre des Amandiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir évoluer au fur et à mesure des albums, te surprendre à chaque fois, te demander où ils vont et puis te laisser porter par leur délire. Et ça, c'est réjouissant. Et ça, globalement, de toute façon, en tant que patron de label, il y a plein d'artistes plus intéressants que ceux qui ne vont pas se répéter. Ceux qui vont évoluer en même temps que toi, et c'est le cas de Cheveux. Mais c'est pas le cap ultime. Le cap ultime, ça va être quand je vais me mettre à sortir de la pop. Quand je vais enfin m'autoriser à faire réellement ce que je veux. Quand je vais comprendre que personne ne me l'interdit. Quand je vais comprendre que les gens vont me suivre et que même s'ils ne me suivent pas, ça n'aura pas d'importance. Et ça, c'est la signature coup sur coup de Julien Gasque et Forever Pavot. Quand j'arrive, moi, à assumer ces signatures-là, mettre ça à la gueule des gens, leur dire, voilà, maintenant on a bien rigolé, les groupes de crasseux, les groupes de machins, c'est formidable, mais j'ai aussi d'autres envies. Maintenant, j'ai progressé. Et j'ai envie d'aller vers des musiques qui sont un petit peu plus sophistiquées, un petit peu plus subtiles. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus le rock'n'roll, ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus. Mais j'ai d'autres envies. Mon spectre musical s'est élargi. Je veux que le label Band Bat se fasse l'écho de cette nouvelle ouverture d'esprit que j'ai acquise. Et particulièrement en musique, d'être prisonnier de ces certitudes. Il n'y a rien de pire que ces gens que tu vas croiser, qui de façon péremptoire vont t'expliquer que tel groupe c'est de la merde, que telle musique c'est de la merde. C'est horrible. Et ça, je m'en suis totalement détaché. J'ai appris a alimenté ma curiosité. J'ai appris à ne plus avoir peur de mes propres goûts. Parce qu'on a toujours peur d'assumer ses propres goûts personnels. Nos goûts sont tellement conditionnés par notre entourage. C'est difficile d'avoir le courage d'aller vers ce qu'on aime réellement. Et ça, ça m'a pris énormément de temps. Et notamment avec le label. Pendant très longtemps, je me suis cru prisonnier. J'ai cru que je devais respecter une ligne artistique, que je n'avais pas le droit de faire de la pop, que je n'avais pas le droit de faire de la chanson, que je n'avais pas le droit de faire de musique africaine. Pendant très longtemps, j'ai cru que je pouvais pas choisir, que je n'avais pas le droit de faire ce que je voulais, qu'il fallait respecter un dogme parce que tout le monde m'aurait jeté la pierre dès lors que j'aurais dévié.
Moi, j'aime pas ce qui est régressif. Donc, la banane, les machins, ça me fait marrer, mais au bout d'un moment, on vit en 2010. Moi, avec mon label, en tout cas, je revendique le droit de faire partie d'une certaine avant-garde. Alors après, les rockers talibans bas du front, évidemment qu'ils comprennent pas ce que je branle. Mais je m'en fous, c'est pas eux que je m'adresse, c'est pas grave. Moi, à chaque fois que je sors un disque, je mets mes couilles sur la table. À chaque fois que je mets quelque chose, je me mets en danger. Je suis sans filet. Je peux pas être plus rock'n'roll que je ne suis. Je suis là-dedans depuis que j'ai 14 ans. Donc il va être où le mec qui va venir me jeter une pierre en expliquant que j'ai trahi?
Je me pose plein de questions, je me mets à la pression. Vont-ils m'aimer encore? Est-ce que je vais être encore respecté? Et évidemment qu'il y a plein de mecs qui me tombent dessus, qui me chient à la gueule en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as trahi! Pourquoi? Pourquoi faire ça ?» Malgré tout, très rapidement, je suis apaisé et serein avec ça parce que les groupes trouvent leur public. Moi, j'y trouve mon compte, évidemment, parce que je deviens réellement en phase avec mes goûts. C'est-à-dire que j'ai cessé de m'interdire de sortir des titres, des disques. J'ai enfin compris que le rock'n'roll n'était pas seulement qu'un folklore, que tu pouvais faire de la pop et être rock'n'roll, et bien plus dangereux et subversif que des artistes que j'avais pu côtoyer tout au long de ma vie, qui se défonçaient du soir au matin et qui étaient tatoués de là à là. Je comprends tout ça d'un coup. Moi, j'étais le dernier d'une famille et je vivais avec mon frère qui s'appelait Xavier. Mes autres frères avaient déjà quitté, on va dire, le domicile familial. Et donc, je vivais avec mes parents, mon frère Xavier, donc punk, au milieu des années 80, avec, malade psychiatrique, quoi. Donc avec les va-et-vient dans les hôpitaux, les internements de force, et puis les crises à répétition, donc cette espèce sans sombrer dans le pathos, un climat est réellement de violence, parce qu'il pouvait péter les plombs à tout moment, quoi. Donc quand tu grandis avec cette ambiance-là, en te disant qu'à chaque repas, chaque moment de la journée, ça peut tourner au drame, c'est pas vraiment épanouissant. Tu mets là-dessus la chaîne volume 12 avec Clavier et puis t'as tout pour créer une colère en toi et une rage qui m'a jamais quitté. Vers Saint-Germain-en-Laye, dans un milieu extrêmement équilibrant, où tout le monde semble beau, jeune, en bonne santé et riche. Et quand vous rentrez chez vous à la maison qui a tous ces problèmes-là, vous nourrissez forcément une différence et une amertume. Vous avez les boules, vous grandissez avec ce sentiment que la vie est injuste, parce que vous êtes le seul con qui en chie. Alors après, ou à tort ou à raison, hein, j'étais loin d'être malheureux, faut pas déconner, mais j'avais ce sentiment-là quand même. Je me disais, tout cela est bien injuste. Mon père m'avait raconté une anecdote dont je me souviens toujours. Il m'avait dit qu'à Noël, il avait été invité, donc il était à l'assistance publique, et à Noël, il avait été invité par une famille de Bourges à partager le réveillon avec eux, et que ça avait été une expérience traumatisante pour lui d'être comme le petit singe à table avec ses braves gens, et puis arriver le dessert, être obligé de se casser. Et il il m'avait dit, voilà, ces gens qui ont l'illusion de me faire du bien se faisaient du bien à eux-mêmes, en réalité. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est le problème de la bien-pensance. Tu vois, quand les gens commencent à penser qu'ils savent ce qui est bien pour toi, qu'ils savent ce qu'il faut faire pour que toi... Pour que, enfin, tu vois, c'est ça, le problème. C'est vraiment pénible. Cette espèce d'empathie au rabais, en fait, de merde dont on est victime au quotidien. J'ai l'impression que c'est vraiment le cancer de ces dernières années. C'est comme, toi, les célébrations à venir à travers le prix des indépendants. Je passe, enfin, je sais pas quoi en penser. Je suis emmerdé avec ça, vraiment. Je suis emmerdé. J'ai l'impression que c'est pas légitime. J'ai l'impression réellement que ce que je fais n'est pas très important. J'ai l'impression que c'est me faire trop d'honneur. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Il s'agit de Rhône. Pourquoi cette cérémonie sur le prix des indépendants, je les ai pas appelés pour leur dire que je voulais pas faire partie de ce truc? Pourquoi je me suis pas mis en retrait?
Eh bien, j'ai le plaisir de remettre le prix des petits labels à Born Bad Records. Jean-Baptiste Guillon, alias Jean-Baptiste Guillon, alias JB Wiz, le patron de ce label de rock indé. Bonjour
micro.
Jean-Baptiste. Approchez Jean-Baptiste, venez. Qu'est-ce que ça fait de gagner déjà et qu'est-ce que ça fait d'être là avec l'expérience que vous avez maintenant, 10 ans, c'est quand même pas rien pour un label.
Ben voilà, je suis très heureux évidemment, je prends ce prix de bon cœur. Parce que voilà, ça a été 10 ans à fond les gamelles. Voilà, j'ai pas beaucoup de recul sur ce que j'ai fait parce qu'évidemment, je suis pris dans un tel tourbillon que.
Ça veut dire quoi? Ça vous êtes tout le temps la tête dedans?
C'était, voilà, ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, beaucoup de détermination. Faut pas avoir d'état d'âme parce que sinon, vous commencez à douter l'utilité de ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, une des meilleures techniques, c'est de fixer un point à l'horizon et puis tracer. C'est un peu ce que j'ai fait. Cultiver une espèce de. Détermination, puis d'entêtement pour tenir le cap.
Le fait de me donner un prix, c'est une façon de dire je fais partie du système, évidemment. Évidemment, c'est pour ça que je me pose des questions aussi par rapport à ce prix. C'est pour ça qu'il y a plein de jours, j'ai envie de les appeler et de leur dire bon, ouais, oubliez-moi, quoi. Évidemment, enfin, tu vois, j'ai cette envie aussi de rester sous les radars. Mais je pense que c'est positif que Band Bad puisse servir d'exemple et soit présenté en exemple. C'est un sacré pied de nez à tous les gens qui disent que tout est pourri, que tout est dégueulasse, que tout est naze, que tout est... tu vois. Et ce qui est marrant, je sais pas si t'as vu d'ores et déjà sur Facebook, le nombre de gens qui ont relayé le truc du prix des indépendants, il y en a pas un qui parle que Band Bad est nominé, il y en a pas un qui parle que Cheveux est nominé. Ils parlent tous du fait que c'est une mascarade. Ils parlent tous du fait que c'est Vianney, Camille et je sais plus qui soient nominés à l'album de l'année. Les gens ont cette tendance tout le temps à aller vers ce qui est dégueulasse. Facebook a accentué ça, en fait, je trouve. Les gens se complaisent à pointer du doigt tout ce qui sent la merde, tout ce qui pue du cul. Et ça, c'est insupportable. La réussite de Band Bad envoie un message d'espoir qui est extrêmement positif. Voilà. Le triomphe de Band Bad, c'est au-delà de l'indépendance, c'est celui de la liberté. C'est dire qu'en France, il est encore possible en 2017 de défendre une vision personnelle et singulière. C'est encore possible. Tu vois le message d'espoir que t'envoies? Il est indispensable. On a besoin d'espoir. Tu vois bien comme la conjoncture n'est pas marrante. Tu as bien vu comme c'est de plus en plus horrible. Tu as bien vu comme on est prisonnier des communicants, comme on est prisonnier du marketing, qu'on est prisonnier du cynisme, comme on est prisonnier du consumérisme. C'est horrible. Et on a besoin d'envoyer d'autres signaux aux gens pour les rassurer, pour leur dire que non, tout n'est pas perdu. Non, il faut garder espoir. Oui, c'est possible. C'est ça le prix des indépendants. C'est pour ça que je soutiens pleinement ce projet. Ça ne m'intéresse pas de voir que ça va peut-être être Vianney qui va gagner l'album de l'année. Évidemment que je déteste Vianney, c'est tout ce que je déteste. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est les autres signaux que t'envoies.
Sincèrement, tu peux sortir un disque en France quand on fait ce genre de musique.
Soit
ta bande bad qui est pour moi le haut du panier en termes de musique libre, en quelque sorte, tu vois. Soit tu vas plus haut pour avoir une pseudo-expérience avec, ça donne pas spécialement envie. Quoi. Autant on est bien là, quoi.
Tu trouves pas qu'il y a un truc aussi un peu de maison de disques à l'ancienne?
Si on prend les années 60-70, ouais. Les maisons de disques, c'était des gros enculés.
Ouais, c'était bien sûr.
Les bandes bad, pour l'instant, il peut avoir eu des problèmes avec des gens, des trucs, mais c'est des problèmes de je pense, de fierté, de trucs, de machins qui veulent... On a un truc, mais c'est pas un label d'enculé, en tout cas. Il a pas les moyens d'enculer les gens actuellement, fortement, dans le bandes bad. Ce qui est déjà rassurant, tu vois.
Je veux rester dans la marge. Je suis un acteur de la contre-culture. Je n'ai pas vocation à me civiliser. Je n'ai pas vocation à devenir respectable. C'est très bien en ce moment tout ce qui se passe autour du label, tous ces gens qui projettent leurs fantasmes sur Born Bad en me voyant comme le chevalier blanc, le dernier rempart contre la major, le dernier label radical qui en a rien à foutre. Mais je n'ai pas vocation, voilà, comme je l'ai dit en début d'interview, à grossir, à me développer. Je suis dans la contre-culture, je suis une sorte de contre-position. C'est ma vocation, c'est mon destin. C'est ce que je veux. Le soir, quand je me couche, je rêve pas de devenir tôt ou tard. Je ne rêve pas de devenir Because ou Naïve, qui sont des très gros labels indépendants. Le soir, je me couche en me disant que je dois continuer à avoir la foi, continuer à garder le cap, essayer de me renier le moins possible. Voilà, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait avancer et c'est mon envie.
Tu crois en Dieu? Ça fait 4 fois que tu me parles d'El Mektoub, de ton destin.
Oui.
L'interview que David avait fait de toi, chez toi, il pose cette question-là, je te la pose aussi, la même, 10 ans après. C'est pas nous qui le disons, c'est toi. Born Bad serait selon toi le meilleur label de rock en France. Quels sont les arguments qui te permettent cette arrogance?
Le nombre de disques que j'ai sortis, c'est-à-dire que j'ai un bis... c'est vénère de dire ça.
Tu dis sans problème... que Born Bad aujourd'hui c'est le meilleur label de rock en France. Ouais, je voudrais que tu me donnes les arguments. Qu'est-ce qui te fait dire ça encore?
Bah écoute, c'est pas difficile de prétendre à la place du trône vu que je suis tout seul à faire un label de rock'n'roll en France. J'entends parler de toi qui développe un catalogue et puis qui, avec un travail de fond et un suivi des artistes. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets souvent cette arrogance de dire que je suis le meilleur label de rock en France. C'est un peu évident quoi.
Alors, Born Bad, j'avais dit que Born Bad était le meilleur label de rock français. Bah, évidemment, c'est une façon aussi d'exhorter le destin, tu vois. Je suis pas assez prétentieux pour le croire. Après, voilà, si je suis pragmatique, quand je fais le bilan, je dois bien voir. Je serai sans doute plus humble. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses. Je me rends compte que c'est pas grand-chose non plus. J'ai sorti une centaine de disques. Je suis rassuré sur mes compétences à le faire. Donc, comment tu trouves la motivation? Enfin, comment dire? Je fatigue, j'ai du mal, je commence du mal à... Qui n'a pas sa centaine, pour pas dire son millier de bonne musique? Donc, au bout d'un moment, ça ne suffit pas pour te nourrir au quotidien.
Moi, c'est pas une vocation d'aller plus loin que quoi. Moi, j'ai l'impression d'être déjà le roi de Maniche.
Je trouve ça est ridicule, parce que, faut être honnête, si je fais la colonne plus, je fais la colonne moins. J'ai des gratifications à faire le label.
Cette idée d'entrer en résistance, cette idée d'être anti-système, cette idée de créer un sillon.
Pourquoi continuer? Pour quelle raison? Sortir des disques.
La morale de l'histoire, c'est le moteur de toute cette épopée, c'est l'envie. Band Bad durera tant que j'en ai l'envie.
À quoi ça sert ce que je fais?
Mon unique vocation, c'est de tenir un cap. Alors après, on peut penser ce dont du label arrive. Mais en tout cas, moi, j'ai donné réellement le meilleur de moi-même.
Est-ce que je vais gagner un peu en légèreté?
T'es tout le temps en première ligne.
J'ai aucun problème si tu me dis que ça s'arrête là.
J'ai le droit de faire les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance.
Que je suis pas obligé de me mettre la pression comme ça.
Tout. Je suis là pour tout défoncer.
Je suis crevé. Ça m'évite trop de questionnements.
Plutôt ça que de faire des trucs un peu dégueux, je n'assume pas.
D'avancer, peur de voir les choix,
c'est vivre, on a fait les mauvais choix. Inscrire que c'est pas.
Moi j'aurais le fou, je m'en rendrais malade. Ces sentiments d'être l'étendard,
je m'en rendrais malade.
C'est le poids de la bande, je te juge quand tu te comportes comme la merde. Je plafonne, que ce n'est pas grave. Le but pour le but, un seul but pour le but, c'est ma.
Et j'en fais déjà bien un peu, je me fous de la terre.
Et j'espère que quand j'aurai une bonne vie, j'arrêterai le label. Que je continuerai pas. C'est un autre danger, ça.
C'est le point que tu fixes à l'horizon pendant 11 ans. Et si tu essaies de ne pas en vivre.
Non è un poema, non è una ricetta, non è un romanzo, l'inizio di una storia.
È l'ultima canzone, la mia ultima canzone, è l'ultima canzone.
Non è una grappa di uva, non è un sorso di vino, non è una lacrima, ma viene dal cuore.
È l'ultima canzone.